aujourd'hui, je reçois Thomas Borel, qui est l'un des porte-paroles de l'association Survie et qui est également co-directeur de l'ouvrage collectif L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour représenter l'association Survie, elle dénonce toutes les formes d'intervention néocoloniale française en Afrique. Elle milite pour une refonte réelle de la politique étrangère de la France en Afrique et se mobilise contre la France-Afrique. En quelques mots, depuis combien de temps a Survie vous contribué pour faire connaître la France-Afrique? Et toi, en tant que porte-parole de Survie, comment est né ton engagement pour cette cause?
L'association Survie, elle tire son nom d'une époque où elle faisait complètement autre chose. Et donc, elle est née au début des années 80 pour une loi sur l'aide au développement. L'idée était d'aider davantage. C'était une loi de survie. Et donc, l'association existe depuis cette époque. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Mais elle a évidemment changé, puisque plutôt que d'aider davantage, maintenant, elle cherche d'abord ne pas nuire. Et donc, moi, j'ai croisé pour la première fois la route de l'association il y a une vingtaine d'années. J'étais parti, ce qui va obliger à dire mon âge, j'étais parti à 20 ans en stage au Burkina Faso. Et j'avais très mal vécu les conditions de vie des Blancs, là-bas, l'écart, ce qui se passait. Et en rentrant en France, on m'a parlé de l'association Survie et j'ai fait l'erreur, je crois, de ne pas m'y intéresser tout de suite. Et c'est quelques années plus tard que j'ai lu certains ouvrages, que j'ai commencé à m'y intéresser et que j'ai eu une véritable nausée à l'idée de ce qui avait été fait en notre nom, à nous, Français, Françaises, en termes de politique en Afrique. Et donc, j'ai commencé à m'engager de cette manière-là. Simplement pour reprendre un peu ma voix de citoyen dans cette affaire.
Et maintenant, on va parler de l'ouvrage collectif que tu as co-dirigé, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. Mais avant, on va contextualiser un peu. La France-Afrique désigne un système politique qui prend racine au moment des indépendances africaines, en 1960. Dès lors, l'État français met en place des réseaux d'influence pour garder la mainmise sur ses anciennes colonies. On peut parler d'un système opaque qui se noue entre des élites françaises et africaines pour servir mutuellement leurs intérêts au détriment des peuples africains. Tout au long de la Ve République, les présidents français se sont succédés et l'histoire de la France-Afrique s'est écrite avec eux, en silence. Et justement, dans votre ouvrage, comment avez-vous passé au crible ces 60 années et même plus de relations franco-africaines pour en révéler sa part de secret?
Alors justement, c'est vrai que dans cet ouvrage, on repart même un peu plus loin. On démarre à la Seconde Guerre mondiale en analysant la manière dont la France-Afrique se met en place pendant l'époque coloniale. C'est rigoureusement exact ce que tu as dit sur la manière dont, au moment des indépendances, simultanément, on confisque finalement une part de souveraineté et ce sont des indépendances sous contrôle qui sont accordées. Mais ça, ça remonte, c'est en discussion finalement dans des cercles politiques français, dans des cercles coloniaux, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le mot même de France-Afrique apparaît pour la première fois en 1945 et non pas plus tard, à la fin des années 50, comme c'est souvent dit. Donc c'est ça aussi qu'on raconte dans ce livre, la manière dont, à l'époque, les lobbies coloniaux se rendent compte, face à la contestation de la présence française en Afrique, de la présence coloniale, qu'il va falloir aménager le système, qu'il va falloir changer un peu, mais pour que rien ne change structurellement, pour conserver une forme d'emprise. Et c'est ça qu'on explore dans le livre. Par ailleurs, sur la façon de fonctionner, enfin, de ce qui caractérise la France-Afrique, il y a tout cette partie occulte, ce manque de transparence dont tu as parlé. Et puis, il y a des mécanismes officiels, des accords de coopération au plan militaire, au plan monétaire avec le franc CFA, sur tous les pans de la vie, finalement, des populations des nouveaux États qui se mettent en place en 1960. Et ce qu'on explique dans ce livre, en explorant à la fois certains volets occultes, sulfureux, méconnus, mais aussi toute cette histoire, finalement, qui s'est faite au grand jour, mais qui est insuffisamment analysée, c'est la manière dont la France-Afrique est bien une sorte de pièce avec deux faces, une face occulte, une face officielle, mais qui vont ensemble et qui, ensemble, contribuent à priver de souveraineté les peuples de ces pays-là et qui contribuent aussi à gangréner la démocratie chez nous par des effets de retour, de corruption, de circulation d'argent, de pouvoir indu. Et donc, c'est bien aussi un enjeu démocratique en France.
Et pour raconter cette histoire de la France-Afrique, vous écrivez en une de votre ouvrage « Guerre, pillage, racisme, coup d'État, corruption, assassinat ». C'est donc un système politique criminel que vous voulez révéler. Mais comment se fait-il que tous ces crimes soient restés dans l'ombre? Est-ce que ça relève du secret d'État, de l'indifférence de l'opinion publique? nous, quelle peut être notre part de responsabilité ?
Alors effectivement, ils ne sont pas complètement restés dans l'ombre, c'est-à-dire qu'une bonne partie de ces crimes peuvent faire, y compris à l'époque où ils ont été commis, peuvent faire l'objet de certains petits articles de presse, mais ne font pas l'objet de grands scandales. Et plus près de nous, par exemple au mois de novembre, fin novembre, il s'est passé un événement similaire. L'armée française, il y avait un convoi qui était bloqué à la frontière, d'abord au Burkina Faso, puis au Niger, et face à la foule de manifestants, l'armée française a tiré, et il y a eu des morts. C'est-à-dire que notre armée a tiré sur des manifestants pacifiques, désarmés, au Niger, que ça a fait des morts, et que ça ne produit absolument pas de scandale chez nous. La presse en a un petit peu parlé, mais quelque part, en contribuant tout en parlant, à le passer sous silence, en ne conférant pas l'importance à ce type d'événement, l'importance que ça mérite. Et une des raisons à ça, et qu'on essaye d'expliquer tout au long, nous, de cet ouvrage, c'est quelque part la manière dont un imaginaire colonial perdure dans nos sociétés, à la fois en France, mais aussi parfois parmi les populations africaines. Mais en tout cas, en France, cet imaginaire colonial avec une forme de racisme latent, pas assumé, on ne parle pas du racisme décomplexé qui va insulter des gens, etc. Mais cette idée que quelque part en Afrique, c'est moins grave, quelque part c'est plus acceptable. Voilà, c'est aussi ça qui joue dans cette question-là.
Et la France-Afrique fait donc référence à ces affaires criminelles, mais aussi à des affaires de corruption. Et j'ai entendu, tu as dit, la France-Afrique est un système qui repose en bonne partie sur des fondations légales. C'est difficile à comprendre. Alors quels sont ces mécanismes dont tu voulais parler et comment expliquer qu'ils aient été intégrés sans inquiéter ?
En fait, ils sont l'essence même du système. Au moment des indépendances, Michel Debré, le Premier ministre en France en 1960, explique au Premier ministre gabonais, il y a deux systèmes qui vont ensemble, les indépendances et les accords de coopération, l'un ne va pas sans l'autre. Ces accords de coopération, c'est ça qui crée ces liens et qui crée ce mécanisme institutionnel de confiscation d'une partie de la souveraineté. Donc, tout simplement, c'est assumé à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est souvent commenté comme une manière d'avoir aidé les jeunes États à se mettre en place. C'est en fait une manière aussi de confisquer cette souveraineté.
Et dans l'ouvrage, il est écrit « À Paris, on entend de toutes parts le même refrain « La France-Afrique est morte et enterrée ». Pourtant, de Ouagadougou à Libreville, de Dakar à Yaoundé, de Bamako à Abidjan, la jeunesse se révolte contre ce qu'elle perçoit comme une mainmise française sur son destin. » Peut-être que l'on pourrait expliquer aujourd'hui de quelle manière la présence française se traduit en Afrique et par quel biais cette influence perdure-t-elle ?
Alors, le fait qu'elle perdure, par exemple, par la présence de l'armée française dont j'ai parlé, l'armée française n'a jamais quitté le continent africain depuis le 19e siècle. Alors aujourd'hui, on nous dit que c'est au titre de la lutte contre le terrorisme, mais il y a aussi de la coopération militaire, des officiers français qui sont dans les appareils répressifs pour apporter un conseil sur la manière de faire fonctionner ces armées-là. Il y a la manière dont la France est présente, c'est au plan économique, avec des entreprises qui continuent de faire des gros profits. On est en Bretagne, on peut penser à l'entreprise Bolloré. Il y a évidemment des aspects aussi plus diffus par la coopération, l'aide au développement, et qui sont aussi en réalité des modes d'influence et qui vont contribuer, même si les personnes sont de bonne volonté souvent là-dedans, mais qui vont contribuer à une forme d'emprise. Et puis il y a la monnaie, le franc CFA, qui est venu cristalliser justement la colère de cette jeunesse africaine dont tu parlais.
Et la France-Afrique existe donc toujours ? Pourtant, ce terme-là, Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, ne veut pas en entendre parler. Il a tout fait pour s'en débarrasser. Alors pourquoi ? Quelles sont ses raisons ?
La France-Afrique, pendant longtemps, moi quand j'ai commencé à être à l'association Survie, on nous disait ça n'existe pas, c'est une invention de militants et de militantes. Puis on nous a dit ah oui, ça a existé, mais ça appartient au passé. Nicolas Sarkozy a dit qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. François Hollande, candidat, a dit qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Et Emmanuel Macron, candidat, a dit qu'il allait mettre fin à la France-Afrique. Et justement, ce qu'on montre dans ce livre, c'est qu'en dépit de ses gesticulations, ce qui fait l'essence même de la France-Afrique, la structure de la France-Afrique, perdure. Et cela évolue dans le temps, le contexte évolue et donc il y a des adaptations, il y a des réformes. Et Emmanuel Macron a mené quelques réformes sur lesquelles il a beaucoup communiqué, mais qui n'ont pas changé fondamentalement le système.
Donc la France-Afrique est sans doute un système qui s'est adapté, mais aujourd'hui il y a une rupture entre la France et ses anciennes colonies. L'image de la France continue de se dégrader et le rejet de cette ancienne puissance coloniale ne cesse de se manifester. Des manifestants ont notamment pu écrire « Abat Macron, vive la Russie », un sentiment anti-français unanime et une influence politique et économique de la Russie et de la Chine qui grandit. Alors comment on pourrait expliquer ce point de bascule ?
Alors, il n'y a pas forcément un point de bascule. Il y a une évolution et qui, là encore, n'est pas complètement nouvelle. Dans les années 50, et c'est ça qu'on montre dans le livre, dans cette perspective historique, dans les années 50, il y a aussi cette idée qu'il y a des puissances concurrentes, les anglo-saxons notamment, qui viennent saper la confiance, la relation entre la France et les États africains. Aujourd'hui, on accuse la Russie de jouer un rôle. C'est vrai qu'elle souffle sur des braises, mais les braises sont déjà là. Il n'y a pas besoin de la Russie pour ça. Et donc, on a une colère qui se cristallise, qui devient à un moment un point de bascule momentané dans certains pays, en Centrafrique, au Mali, mais ailleurs, les États des autres pays africains continuent de fonctionner avec la France. Et il faudra voir dans quelques années où est-ce qu'on en sera, parce qu'en Centrafrique, ça s'est déjà produit, par exemple, en 1997. On avait la même chose. Et puis quelques années plus tard, l'armée française est revenue, la France est revenue. Elle est à nouveau repartie. Mais on ne peut pas conclure, là, sur un temps très court, qu'il y a soudainement un basculement en cours. On peut peut-être l'espérer, en tout cas, c'est mon cas, mais on ne peut pas le conclure à ça. Et puis, par contre, on peut déplorer que pour rejeter la France, des gens qui en ont marre de l'impérialisme français se tournent vers un autre impérialisme, celui de la Russie, ou l'impérialisme économique de la Chine. Mais ça, c'est pas à nous, Français, de mener ce débat-là. C'est un débat qui doit avoir lieu en Afrique.
On comprend donc que l'influence de la France est d'une certaine manière indissoluble. Elle restera toujours là. Mais la politique étrangère de la France en Afrique doit être repensée. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achève sur un échec au regard de la situation sur le continent, des émeutes à Dakar en 2021 qui avaient pris pour cible des enseignes françaises, au Mali, la fin de l'opération Barkhane qui laisse le pays en plein chaos. Quel rôle la France doit-elle adopter ?
Bah justement, la difficulté au regard de ce qui se passe au Mali, on pourrait se dire, ça vient nourrir une sorte de fantasme selon lequel, regardez, c'est pire quand nous ne sommes pas là, qui est un des gros arguments qui est mis en avant. Au contraire, nous pensons qu'il faut accepter que l'histoire s'écrive sans la France. Il faut accepter d'avoir de l'humilité par rapport à cette histoire-là. Il y a des mouvements de résistance africains, il y a des mouvements panafricanistes, il y a d'autres, toutes formes de résistance qui se créent et qui réinventent des avenirs politiques. Et ce n'est pas à nous de devoir écrire cette histoire-là. Donc c'est vers cela qu'il faut aller. Et il faut aller vers un retrait de l'armée française d'Afrique. Et il faut aller vers, par exemple, couper complètement les ponts au niveau monétaire, que la France sorte du franc CFA, au lieu d'en faire quelques réformes pour essayer de sauver le système. Et c'est bien ça l'évolution, nous, à laquelle on appelle. Et pour l'instant, avec Emmanuel Macron, effectivement, le compte n'y est pas.
L'histoire doit s'écrire sans la France, mais alors comment pourrait-on imaginer des relations franco-africaines saines ?
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des liens qui peuvent se faire, des liens de solidarité. Nous, par exemple, l'association Survie, avec les Amis de la Terre en France, on a, avec des ONG d'Ouganda, déposé une plainte contre le groupe Total par rapport à un projet climaticide et une bombe aussi au niveau social dans ces pays-là, ces pays, parce qu'il y a en Ouganda et en Tanzanie. Et donc, on a déposé une plainte et là, on agit de concert et donc, il y a bien une relation. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a plus de solidarité, qu'il faut se refermer, se barricader chez soi quelque part. Ce n'est absolument pas le discours. Par contre, c'est accepter que ce ne soit pas la France et l'armée française qui interviennent. C'est réfléchir à comment faire évoluer les institutions internationales pour que la France n'ait plus un tel poids à l'ONU, par exemple, elle et les autres membres permanents du Conseil de sécurité. C'est finalement accepter que de redonner une place à des actions multilatérales dans lesquelles la France n'est pas au centre du jeu. Et donc, c'est revoir, avoir de l'humilité pour revoir un peu cette idée selon laquelle la France serait une grande puissance et qu'elle doit rayonner de par le monde. Non, la France, il faut aussi plutôt chercher à être humble et à essayer de construire des solidarités qui n'écrasent pas les autres peuples.
Merci beaucoup Thomas Borel pour cet éclairage. Et on rappelle que l'ouvrage collectif que tu as co-dirigé et que tu présentais à Rennes s'intitule « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique » et c'est paru aux éditions du Seuil en 2021.
Merci beaucoup.